des gens abusés, manipulés, arnaqués. Vous avez toutes les preuves devant les yeux. Et maintenant, quelqu'un doit payer. La chaîne télé, Témoin, pour des scandales en série. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Léa Strisky.
Mais je veux que tu le saches que ça a un effet.
Mathieu Cyr.
Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça.
La rencontre.
Il y a de l'éducation à faire.
Faut avouer que je suis pour la démarche.
La rencontre Strisky-Cyr.
Un retour sur ce point de presse. Geneviève Guilbeault et Isabelle Charest, accompagnées par Christine Giroux, qui est victime de violences conjugales, qui ont fait une annonce quand même importante concernant les bracelets électroniques. Là, on sait qu'on en parlait depuis vraiment très, très longtemps. Projet pilote, on étudiait la chose et là, c'est fait, c'est chose faite. On va implanter progressivement cette mesure-là des bracelets anti-rapprochement, c'est comme ça qu'on les appelle, afin de mieux prévenir les crimes violents, les féminicides qui se déroule majoritairement en contexte conjugal, dans un contexte aussi de séparation. Bien souvent, on parle d'un projet de 35 millions de dollars qui est prévu pour déployer tout ça. Ça va s'échelonner sur une période de 2 ans quand même, mais ça va commencer relativement bientôt, là, parce que je vais être super sincère, j'aurais voulu voir une date plus rapprochée que le printemps, là, mais je comprends qu'il faut prendre le temps de bien instaurer tout ça, parce que ça se fait pas non plus en criant ciseaux, puis il y a plusieurs paramètres dont il faut tenir compte, là, notamment qui va porter ce bracelet-là, dans quel contexte, est-ce que c'est un homme qui va être judiciarisé, on en a parlé souvent là, de ce dossier-là, c'est quand même assez compliqué, et là, comment ça va fonctionner, c'est que le bracelet anti-rapprochement, ça permet là, quand une personne rentre dans un périmètre qui est interdit. Là, par exemple, moi, je suis un homme violent, je sors de prison, puis je m'approche de mon ex-conjointe, ça va mettre en branle un protocole d'intervention policière rapidement. Ce que je comprends là, dans ce qui a été annoncé, c'est que la victime de violence conjugale aurait la possibilité d'avoir sur elle un objet qui l'avertirait aussi. Tu sais qu'en ce moment, la personne problématique est en train de s'approcher d'elle, donc pourrait prendre des dispositions à cet effet-là. Donc, au printemps 2022, ça va commencer au Québec. Donc, c'est ce qui résume. Là, je voyais que Geneviève Guilbeault continue à répondre aux questions. On aura 500 bracelets là, qui vont pouvoir être déployés dans l'ensemble du Québec. Il reste quand même des points aveugles, selon moi, là, notamment le fait que ça va se passer, si ma compréhension des choses est bonne, pour des hommes qui sont déjà judiciarisés. T'sais, mais on l'a vu là, dans plusieurs féminicides, c'est pas encore rendu à être judiciarisé. Il n'y a rien qui a été fait à ce niveau-là. Donc, est-ce que ça va être possible? En mesurant le degré de dangerosité, de peut-être imposer le bracelet anti-rapprochement à des hommes qui sont à haut risque de commettre des féminicides. Puis même encore là, j'en ai parlé à plusieurs reprises avec le docteur Chamberlain, c'est difficile d'évaluer la dangerosité de quelqu'un. Parfois, on peut penser que la personne fera rien, puis finalement, c'est pas ça qui se passe. Puis d'autres fois, c'est le contraire. Donc, tout ça est un sujet très, très complexe. On en parle avec Léa et Mathieu. Salut à vous deux.
Salut.
Bon, je résumais tout ça là, puis je parlais d'une victime de violence conjugale qui était présente au point de presse. Ça a été aussi la même stratégie qui a été adoptée par le gouvernement là, quand il y a eu des annonces concernant les victimes d'exploitation sexuelle. On avait Clémentine, jeune fille qui était victime d'exploitation, qui était présente au point de presse. Je sais pas qu'est-ce que je pense de cette stratégie-là, là, d'amener des victimes peut-être pour venir légitimer les actions qui sont prises, qui sont de bonnes actions, là, je le souligne. Puis je les trouve courageuses, en fait. Ces femmes-là, Léa, puis il y en a plusieurs là, qui m'offrent leur témoignage pour le Journal de Montréal et qui décident de montrer leur visage. Et à chaque fois, je trouve ça phénoménal d'être capable de faire ça.
Ben moi aussi. Et sincèrement, cette semaine, quand Stéphanie Spénard, qui est une victime dans la Naudière, qui a été violemment battue par son ex-conjoint, Guy Benoît, c'est arrivé le 19 novembre, quand on l'a vu témoigner à visage découvert avec toutes les blessures qu'elle a subies, entre autres à son visage, ça m'a comme fait un choc de à quel point, oui, ça prend du courage de faire ça, puis à quel point c'est important, parce que la violence conjugale, c'est un truc là que, tu sais, on mentionne ce terme-là, on voit les féminicides, On a l'impression que ça devient un peu des faits divers où est-ce que c'est facile de se ranger dans une sorte de dimension où c'est les affaires de leur couple ou de c'est comme si ça arrivait derrière des portes puis qu'on comprenait pas vraiment c'est quoi exactement les dynamiques entre les deux personnes. Puis là, à un moment donné, quand t'as vraiment le visage d'une femme qui te montre ses blessures et puis qui a le courage d'arriver là. Puis, il me semble que ça met un espèce d'éclairage complètement réaliste sur ce que c'est réellement que cette violence-là. Puis, je trouve que ça donne une force de témoignage qui, évidemment, peut pas être fait à chaque fois parce que je comprends complètement que ces femmes-là soient terrorisées et qu'elles veulent pas leur face dans le journal. Mais faut le dire que ça a un impact réel, je pense, sur le dialogue social, parce que ça nous fait juste automatiquement comprendre la gravité de la chose.
Ben c'est ça. Puis tu vois, c'est drôle ce que tu dis parce que je publie le témoignage récemment de Mélanie Côté. Était rentrée justement en contact avec moi suite au rapport du coroner concernant le meurtre de Marilyn Lévesque, justement sur le bracelet électronique, en me disant mon ex est en prison puis j'ai peur pour quand il va sortir, tu sais, qu'il attente à ma vie encore une fois. Et il y avait des détails quand même assez violents là dans son récit qu'elle m'avait raconté, puis je me demandais si j'allais les mettre dans le texte, mais bon, j'ai décidé d'en omettre quelques-uns et d'en mettre d'autres pour que les gens saisissent la gravité. Parce que des fois, j'ai l'impression, comme tu dis, là, tu sais, ça reste des mots, féminicide, on voit la photo de la personne qui est décédée ou la photo de la victime au moment où elle allait bien. Donc, je pense qu'on saisit pas toujours la violence de ces attaques-là, à quel point ces femmes-là aussi endurent un enfer, là, ont des séquelles à vie, de graves séquelles physiques, psychologiques. C'est plate, mais je trouve que des fois, c'est nécessaire de mettre les photos. Puis dans le cas dont tu viens de parler, là, cette femme dans la région de Lanaudière, si je ne m'abuse, là, elle fait les nouvelles parce que son fils a perdu sa place en garderie à cause de la violence conjugale dont elle a été victime. Puis on voyait sa face tuméfiée, vraiment blessée. Puis ça m'a choquée quand je l'ai vue. T'sais, j'ai dit, mais c'est-tu vraiment nécessaire? Mais oui, je pense que oui.
Oui, c'est nécessaire parce qu'on se garde un bras de distance avec cette violence-là. Puis on a l'impression que... Je sais pas, que ça nous concerne pas quelque part. Puis tu sais,
ça nous concerne tellement tous.
Puis tu sais, puis on voit la face de ces femmes-là une fois qu'elles meurent généralement. Puis là, c'est classé dans les nouvelles. Puis après, on passe à autre chose. Là, moi, ça m'a fait le même effet que quand la vague MeToo a commencé, parce que qu'on commence à voir le visage de ces femmes-là. Moi, je pensais pas que le silence se briserait sur les agressions sexuelles. Puis que là, on commence à voir le visage de des femmes qui sont victimes. Ça arrive en France aussi en ce moment avec une histoire d'une championne olympique qui s'est faite violentée par son entraîneur.
Oui.
Et elle a publié la photo de sa face. Puis je vous jure que ça a un impact sur notre vision de ce que c'est la violence conjugale.
Mathieu?
Ben moi aussi, c'est venu me chercher de voir la face de la victime ce matin dans le journal. C'est évident que c'est parce que en plus de ce qu'elle a dit, tu sais, oui, c'est relayé aux oubliettes parce qu'on se dit c'est leurs affaires, tout ça, mais au-delà de ça, c'est triste à dire, mais c'est parce que ça arrive tellement souvent, la violence conjugale, des féminicides, qu'il y a une espèce de... C'est un peu comme des gens qui meurent de faim dans le tiers-monde.
Mais c'est terrible, c'est comme si on s'était habitué à ce que ça se produise.
Tout à fait. Puis là, je vais faire un parallèle, puis non pas parce que c'est comparable au niveau des événements, mais c'est comparable au niveau des réactions, je trouve. Tu sais, on a parlé pendant combien de temps des abus qu'il y a eu avec les Autochtones et tout, puis là, quand on a vu quand on a trouvé des corps de jeunes enfants et tout, là, soudainement, ouf, il y a une grogne générale au niveau social, puis...
Oui, parce qu'on avait un symbole, c'était tangible. Puis les photos, c'est ça, c'est du tangible.
Tout à fait. Fait que quand tu vois la face de la personne qui s'est fait frapper de même de la part de son ex, c'est sûr que tu sois un gars, une fille, que tu sois... Il n'y a pas de parti pris à avoir. Il y a juste un fait que de se dire comme, hey, ça se fait pas. On peut-tu arrêter ça? On peut-tu trouver des moyens pour aider psychologiquement les personnes en détresse, tu sais, avant que ça se produise? Autant au niveau de la future victime, autant au niveau du futur agresseur qui lui, il sait visiblement pas comment exprimer ses émotions autrement que par ses poings. Fait que le fait de pouvoir voir ça de façon graphique, je pense que c'est un constat de société qu'il faut avoir.
Puis avoir accès à des témoignages aussi, Léa, est-ce que tu es d'accord pour dire que ça vient un peu nous aider à briser les préjugés sur les victimes de violences conjugales? Parce qu'on se rend compte finalement que ce sont des femmes de tous les milieux, de tous les âges. Personne n'est à l'abri de ça.
Ben oui, une championne olympique, je veux dire, c'est sûr, c'est ça, c'est toutes les strates de la... de la société là, qui sont affectés par ça. Puis aussi pour ce qui est du témoignage de la femme, souvent ce sont des femmes qui sont prises dans une telle manipulation et un tel contrôle mental, psychologique et physique.
Puis il y a la question des enfants aussi. Moi, il m'en parle souvent.
Quand je parle des enfants.
Oui, avec les personnes de SOS Violence Conjugale, là, on me dit il y a des femmes qui restent là parce qu'elles ne veulent pas justement que leurs enfants se ramassent avec leur père tout seul, tu sais, dans des cas de garde partagée, tout ça, parce que ça, dans le rapport Rebâtir la confiance, dans les questions de garde, il va en être question là, qu'il faut tenir compte des situations de violence conjugale dans l'octroi de la garde pour les enfants. Les mères qui se disent, ben coudonc, moi, je vais rester pour protéger mes enfants, au moins, je serai là.
Mais oui, puis c'est pour ça que je trouve que le témoignage est d'autant plus important, même si je répète que je comprends que des fois il est pas possible, mais c'est parce que j'ai l'impression que ça redonne une parole à cette femme-là. Puis à partir du moment,
elle retrouve un pouvoir, un certain pouvoir, le contrôle de leur récit.
Un pouvoir sur comme tiens, moi je vais mettre ma face dans le journal avec à quel point tu m'as fait mal. Puis je trouve que c'est une reprise de pouvoir qui est malheureusement nécessaire et qui devrait pas être sur le poids, sur les épaules de ces femmes-là. Mais si ça peut leur redonner un courage puis un pouvoir, ben je veux dire, c'est juste tant mieux, quoi.
Mathieu?
Ben, je suis pas d'accord avec ça. Je veux dire, il faut agir en tant que société par rapport à ça. Puis ça sert à rien de le balayer en dessous du tapis en se disant qu'il y a d'autres choses puis que la société évolue puis elle change. Parce que souvent, quand on n'est pas capable de se remettre les défauts en pleine face, il n'y a pas de changement qui se fait. C'est brusque, mais c'est nécessaire.
Puis,
oui.
Ouais.
Oui,
je voulais juste revenir sur le bracelet, parce que le bracelet, c'est pas la panacée non plus. Il a été essayé en France. Je suis pour, parce que je trouve que n'importe quel moyen de prévention, c'est une bonne idée. Puis là aussi, on a l'impression qu'il y a quelque chose de très réel et tangible dans « t'as été violent, ben, tu mets ça sur ta cheville, tu peux pas l'enlever puis tu peux plus t'approcher de moi. » On a l'impression qu'il y a quand même quelque chose, il y a une victoire là-dedans, mais ça reste un poids quand même pour la femme qui est obligée de vérifier constamment. Ça lui garde un lien quand même avec son agresseur, puis ça reste, c'est pas parfait non plus, mais je suis quand même pour.
Oui, très bien. Oui, puis tu sais, évidemment, comme je le disais tantôt, le bracelet électronique, c'est pas une panacée non plus, là. C'est un moyen, un des moyens qui peut être déployé pour aider puis prévenir, mais il faudra bien entendu qu'il y ait d'autres actions qui soient entreprises pour qu'on puisse justement en éviter le plus possible de féminicide. Mais c'est malheureux de le dire, puis Geneviève Guilbeault l'a répété souvent, puis c'est triste, mais on pourra pas tous les éviter. Et c'est ce qui fait le plus mal à dire. En tout cas, moi, c'est ce que je trouve, là. OK, on parle de COVID, la peur de la COVID-19 qui affecterait notre raisonnement. C'est ce que révèle une nouvelle étude, Mathieu.
Oui, j'ai été stupéfait de lire ça, puis mais je suis pas surpris tant que ça, mais c'est à ce point-là, c'est fou. C'est que ça affecterait nos facultés cognitives, ce qui fait qu'on traiterait plus lentement les informations. Et je savais pas que ça nous affectait à ce point-là. C'est une étude qui a été faite auprès de 1500 Américains et ils ont mesuré leur niveau d'inquiétude vis-à-vis du virus. Et ça a été réalisé dans les premiers instants de la pandémie, puis ça a été refait par la suite. Et ben c'est ça, les déficiences associées à l'étude, ça laisse penser que les périodes de stress élevées, comme une pandémie mondiale, baissent nos capacités à réfléchir, à planifier et à évaluer les risques. Fait qu'on devient plus niaiseux en ayant peur. Et ce que je trouve fou, c'est que cet article-là est linké avec deux autres articles concernant la COVID-19 qui sont tout à fait alarmistes. Vive les algorithmes,
Mathieu. Mais ça m'étonne pas du tout, moi, que dans. Souvenez-vous comment on était là pendant les premiers confinements, là. Fait que bravo si Gwyneth a réussi à apprendre le grec puis à écrire deux livres pendant qu'on était en confinement.
Mais il y a comme deux écoles. Il y a ceux qui ont été hyper productifs et ceux qui ont été complètement, atterrés puis amortis par tout ça.
Ouais, mais ça m'étonne pas que dans la peur. Mais non, mais dans la peur, tout ton système d'alerte est comme fait que toute ton énergie part de ça, en fait.
Tout à fait. Et semble-t-il qu'il va y avoir une génération COVID pour les bébés qui sont nés pendant la pandémie ou juste avant la pandémie, les très jeunes enfants, ça va laisser des séquelles à vie par rapport aux autres générations d'avant. D'ailleurs, ça a été fait aussi pendant. Il y a des bébés qui sont nés pendant le verglas, dans l'infâme triangle noir du verglas.
C'est vrai, il y a un baby boom.
Oui, il y a un baby boom et ces bébés-là ont un niveau de stress plus élevé. En fait, c'est plus des bébés maintenant, c'est des jeunes adultes. Ils ont un niveau de stress plus élevé que les jeunes adultes en moyenne. Et là, il risque de se produire la même chose à l'échelle mondiale avec la pandémie de COVID. Fait qu'on n'est pas sorti du bois.
Oui, puis ça va nous prendre un petit temps aussi pour descendre sur nos grands chevaux, j'ai l'impression. On a besoin d'une période de transition là pour revenir à nous-mêmes. Puis là, le variant Omicron n'aide pas non plus là, à la psychose populaire. Là.
Mais oui.
Mais avec un peu de chance, ça va annuler Noël et on pourra aller
sur yes.
le 24 décembre.
Oui, faire des parties avec moins de 10 personnes, mon rêve. Mathieu et Léa, merci beaucoup. À demain.
À demain.
Salut.